Donc voilà, une proposition pour voyager, visiter l'Avesnois.
Ouais, c'est ça. Alors l'Avesnois, comme vous le savez, c'est le sud du département du Nord. On est sur la région de Maubeuge, Avesnes-sur-Helpe, Maroual, avec ce fromage emblématique qui n'est fabriqué que ici en Avesnois, et avec une offre tournée autour de la nature, autour de la randonnée. On rappelle que l'Avesnois, c'est aussi un parc naturel régional. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire sur ce beau territoire de l'Avesnois.
Et je pense que c'est un territoire qui est très intéressant, mais pas encore très connu. Et ça pourrait être vraiment un objet de désir, pratiquement, pour les citadins.
Oui, vous avez totalement raison. Et on le constate sur ce salon, où on voit beaucoup de gens qui se sont arrêtés à notre stand. On est presque complètement dévalisés. Là, il est quoi, à peine 16h, 17h. On n'a quasiment plus rien à donner. On n'a plus de cartes, on n'a plus de magazines, etc. Donc c'est super. On voit que les gens de Lille ont envie de s'aérer. Et pour s'aérer, il n'y a rien de mieux que l'Avesnois.
Alors, des lieux emblématiques, on va dire, hein, d'art par exemple. Beaucoup de lieux d'art d'ailleurs.
Oui, en fait, on a une offre qui est très diversifiée. Pour les amateurs de nature, comme je le disais, il y a une offre de randonnée importante. Mais également pour les amateurs d'art, on a trois grands musées départementaux sur le territoire. Si j'associe le musée Matisse, qui est vraiment tout près, il y a le musée Meyer à Sarcoterie, il y a le Forum antique de Bavay, l'écomusée de l'Avesnois, la salle Stroy à Maubeuge, le fort de Levaux à Feigny. Il y a vraiment une offre très diversifiée.
Donc on peut apprendre l'histoire de France, voire même pas seulement de France d'ailleurs, ses relations avec d'autres pays, voire même avec Rome.
J'ai coutume de dire que l'Avesnois, c'est 2000 ans d'histoire. On commence à Bavay, Bagacum avec César, et on va jusqu'à André Lursa qui a reconstruit Maubeuge après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis entre ces deux dates, eh bien, il y a toutes les grandes périodes de l'histoire qui sont ici en Avesnois, que ce soit la période médiévale avec un certain nombre de châteaux, que ce soit la période plutôt moderne avec notamment Vauban qui a fortifié le Quesnois, qui a fortifié Avesnes, qui a fortifié Maubeuge, puis la période plus contemporaine avec de l'art déco. On va rentrer dans le printemps de l'art déco bientôt. Il y a la salle Stroy à visiter à Maubeuge, par exemple, qui est un joyau de l'art déco.
Avec ces espaces... Où on voit encore des animaux dans les prés, voilà, ça paraît anachronique.
Ça paraît anachronique, vous avez totalement raison, et c'est un pays de surprise. C'est-à-dire que la plupart des gens que j'ai eu ici sur ce salon ne pensaient pas que l'Avesnois, déjà, c'est pas très loin, c'est 1h15 de Lille. Hein. C'est très vallonné. Le point culminant du Nord, c'est en Avesnois, c'est pas les Monts de Flandre. Hein. C'est le point du jour à Anor. C'est tout un programme, 272 mètres d'altitude. C'est quasiment la haute montagne. Et puis, bien sûr, on rencontre des animaux. Les plus grands massifs forestiers, c'est forêt de Mormal et forêt de Trélon. Il arrive qu'on croise des sangliers et même des cervidés. En forêt de Mormal, il y a le brame du cerf qui se fait en octobre. Encore plus anachronique, on a un zoo dans les remparts. À Maubeuge, avec 300 espèces d'animaux venues des 5 continents, on peut croiser l'éléphant, on peut croiser la girafe. Et voilà, il y a tant de choses à faire pour les familles, pour les enfants et pour les couples.
Alors, l'Avesnois, c'est quand même grand, étendu, on va dire. Pour visiter de manière intéressante plusieurs lieux dans la journée, il vaut mieux prendre quoi, la voiture, le vélo un peu?
Alors, moi je dirais qu'on a la chance cette année, paraît-il, d'avoir de longs week-ends en mai, avec plein de ponts. Alors moi, j'encourage chacun de venir en Avesnois à l'occasion d'un de ces ponts, parce qu'un long week-end est au moins suffisant pour découvrir l'Avesnois. Effectivement, on peut venir en train, jusque Maubeuge, par exemple, prendre son vélo. On a une voie verte qui part de Maubeuge jusque Trélon. C'est une ancienne voie ferrée qui a été réhabilitée en sentier de randonnée, qui est totalement sécurisée, qui est super praticable pour les enfants. Et puis surtout, on a le réseau Point-Neuf Vélo qui s'est mis en place là cette année, qui va être opérationnel totalement au mois d'avril, qui permet à chacun de créer son parcours. Ça va être 1200 km de boucles interconnectées sur ce réseau Point-Neuf Vélo. Et puis faire du vélo, c'est bon pour la santé, c'est bien pour découvrir, on va à son rythme, c'est ce qu'il faut faire.
Voilà, et pour le touriste qui veut flâner et aller au restaurant, c'est possible aussi?
Bah, j'ai parlé du maroil tout à l'heure. Le maroil est emblématique, on en mange de l'entrée au dessert. Même, il y a eu à un moment une productrice qui faisait même de la glace au maroil, donc on peut le décliner à toutes les sauces. Mais oui, on a une offre de restauration avec notamment un label qui s'appelle les Restaurateurs de l'Avesnois qui s'engage à ne proposer que des produits locaux. Donc vous avez vraiment une assiette de l'Avesnois sur votre table. Et puis de nombreux marchés pendant la saison estivale, de nombreux marchés. Je pense par exemple au marché nocturne d'Eppe Sauvage qui attire chaque année plus de 5000 personnes qui viennent se régaler des produits de l'Avesnois, mais aussi partager, c'est de la convivialité. Hein. Quand on est au restaurant, on ne regarde pas que son assiette, hein. On est là pour échanger avec les gens qui sont à table. Donc voilà, plein de bonnes choses à faire, plein de belles choses à faire. Si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas, tourisme-avenois.com, vous avez toutes les informations sur notre site internet.
Bien, merci, à très bientôt.
Merci à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc on a un peu vu les ressources de l'Avenois. Là, on va venir en tirage avec vous.
Oui, tout à fait.
C'est quoi la différence ?
Alors, la différence, c'est que nous, on est en tirage de laine. On est dans le haut de l'Aisne, dans le nord. Il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste qu'on est deux territoires différents, en fait.
Et donc, une certaine forme d'unité avec... qu'est-ce qu'on pourrait mettre au cœur de cette unité locale ?
Ben, le bocage. Le bocage, c'est une unité des deux destinations. Oui, tout à fait. Le bocage, le maroilles.
Alors, quand on parle bocage, on pense un peu d'arbres, un petit ruisseau peut-être entre les lignes d'arbres, quelque chose de bucolique aussi. Est-ce que c'est préservé fortement ? Est-ce que les sites sont protégés ?
Alors, le bocage est protégé, oui. Il y a des haies, tout ce qui est haies, tout ça, quand elles sont coupées malheureusement par certains, c'est très très mal vu et je pense même qu'il y a des sanctions qui peuvent se faire.
C'est vrai qu'il y a eu un moment où il y avait des remembrements, donc des concentrations de terres agricoles. Là, on revient à l'opposé, hein, revenir à des unités plus petites et qui préservent un peu mieux, notamment la faune et la flore, bien sûr, hein, des territoires.
Oui, tout à fait.
Donc, en termes de visiteurs, au-delà des gens qui habitent chez vous, il y a des gens qui viennent vous rendre visite et peut-être des gens aussi qui s'y installent. C'est un endroit de rêve ?
Ben oui, la tirage, on s'y attache. Oui, tout à fait. On a beaucoup de Belges et de Néerlandais qui viennent chez nous et beaucoup de Néerlandais qui achètent chez nous en résidence secondaire. Beaucoup, beaucoup.
Et ils viennent à quel moment passer leur temps ?
Oh, alors ils viennent lors de leurs vacances, quand ils ont des vacances scolaires chez eux. Et puis vraiment tout l'été, ils sont là.
Il y a beaucoup de retraités aussi qui finissent leur vie, on va dire.
Alors, il y a beaucoup de retraités déjà sur place. tout ce qui est néerlandais, belge, tout ça, qui peuvent venir sur notre territoire, c'est pas forcément des retraités. Ils sont plutôt actifs puisqu'ils peuvent venir que lors de périodes de vacances scolaires. Mais on a aussi, bien sûr, des retraités.
Donc, pour la vie, est-ce qu'elle vous semble plus agréable qu'ailleurs, et quels seraient les éléments ou les paramètres qui en font une destination, un lieu de séjour assez atypique et intéressant ?
Ben déjà, c'est la déconnexion totale, la nature. Il n'y a pas autant de verdure chez le voisin, je pense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de randonnées, de circuits de randonnée, de l'Eurovéloroute. Donc, on a beaucoup de circuits vélo. On a le Familistère de Guise qui est incontournable chez nous.
Ah mince. On pourrait peut-être parler justement de ce Familistère et en quoi il était assez atypique à l'époque industrielle.
Alors, je pense que le mieux, c'est d'aller chez mon voisin du Familistère, justement, qui pourrait, lui, vous en parler beaucoup mieux que moi. Jérôme, tu peux peut-être venir parler un petit peu du Familistère.
Bonjour Jérôme.
Bonjour. Alors le Familistère, donc, c'est un musée qui se situe à Guise, dans l'Aisne, donc à peu près 1h30 de Lille, qui est en fait un musée qui retrace l'expérience sociale et coopérative qui a été menée par Jean-Baptiste André Godin au 19e siècle. Donc Godin, l'histoire l'a malheureusement retenu surtout pour ses poêles et ses cuisinières, ses fameux appareils de chauffage en fonte, mais il a à l'origine, à côté de son entreprise, créé un palais social du travail, lui-même ayant été longtemps ouvrier avant de réussir à devenir son propre patron. Il a donc voulu mettre en application ses idées sociales basées sur le principe de la redistribution de la valeur du travail et celui de l'autogestion. Donc il a imaginé un système dans lequel l'employé forcément crée la richesse par le travail, bénéficie de ce qui lui est dû, c'est-à-dire les équivalents de la richesse, le logement, l'hygiène, le confort, le bien-être, l'éducation, mais aussi est en mesure de gérer cette richesse et ce qui en découle par le biais d'une association coopérative qui a été créée en 1880 et qui a permis donc à ce que l'usine, les bâtiments d'habitation et les bâtiments d'équipement soient transférés de la propriété de Godin à celle des employés des Familistériens. Donc, ce sont donc les Familistériens qui ont, sont devenus copropriétaires et co-gérants de leur lieu de vie de 1880 à 1968.
Alors, j'imagine que cette expérience était originale, voire même osée à l'époque, et qu'elle a, elle aurait peut-être pu déplaire au patronat habituel, traditionnel.
Alors, bien sûr, Godin, avec une telle expérience, a comment dire, suscité une vague de une levée de bouclier face à son projet, puisque Godin, donc, souhaitant créer une nouvelle société, va naturellement appuyer cette nouvelle société sur des principes nouveaux, comme par exemple la laïcité ou encore l'égalité homme-femme, ce qui va ici être assez mal perçu par le monde politique, ou du moins une partie du monde politique, le patronat et le clergé, l'Église. Mais malgré tout, Godin va réussir par son projet à mettre en application ses idées et à prouver à Guise, puis à la fin de sa vie à Bruxelles, à côté, ou tout le moins à côté de Bruxelles, à Laeken, par la construction d'un deuxième familistère, que ses idées sont applicables, ou tout du moins qu'elles peuvent ici donc, donner naissance à une expérience véritablement concrète.
Donc, au départ, ça peut sembler une utopie. Il en reste des traces, de beaux souvenirs, ce lieu et peut-être un avenir qu'on pourrait voir comment.
Alors, Godin est donc associé au mouvement utopiste du 19e siècle. Lui-même s'en inspire. Hein. Godin n'a pas eu ses idées tout seul. Il a énormément lu. Il s'est lui-même intéressé à d'autres projets, comme par exemple le phalanstère de Charles Fourier. Quoi qu'il en soit, Godin a donc mis en application. Donc, on est dans une expérience concrète, réalisée, avec la mise en application de ses idées et une durée de vie quand même qui est assez longue. 88 ans, c'est 5 générations de familistériens. Malheureusement, l'expérience telle que Godin l'a imaginée a pris fin en 1968. Aujourd'hui, il en reste les bâtiments, il en reste une histoire locale très marquée, que ce soit par l'industrie ou par cette vie communautaire, cette vie coopérative dont des descendants sont toujours là pour nous raconter comment c'était de vivre dans les pavillons d'habitation, et par la mise en œuvre depuis le début des années 2000 d'un musée, d'un vaste musée de site qui permet aux visiteurs de découvrir, de redécouvrir cette histoire sociale, un projet qui n'est pas terminé puisque dans un futur plus ou moins proche, il est prévu d'intégrer en plus des expositions muséographiques un espace donc dédié à la remise en vie entre guillemets des pavillons d'habitation sous la forme donc d'un système donc de vie communautaire ou tout du moins de l'intégration donc d'appartements dans les anciens pavillons pour que des personnes âgées ou autres, une résidence multigénérationnelle, voilà, le mot vient de me revenir, donc l'intégration d'une résidence multigénérationnelle dans un pavillon, et dans l'autre, des salles de séminaires, des salles de formation, pour garder toujours cette idée d'évolution, d'innovation et de recherche.
Est-ce qu'il y a à Guise, donc, dans ce lieu, des événements particuliers dans l'année qui pourraient intéresser les chercheurs, les étudiants ou...
Alors, il y a un moment phare de l'année familistérienne, dirais-je, c'est le 1er mai, puisque Godin, historiquement parlant, est l'instigateur de la première fête du travail, qui n'avait pas lieu à l'époque le 1er mai, mais qui a eu lieu le 2 juin 1867. Le calendrier français a instauré au fur et à mesure du temps la fête du travail le 1er mai. Donc nous, on garde cette date pour en faire un lieu de fête avec des visites thématiques, avec parfois l'ouverture de bâtiments habituellement fermés au public ou en travaux pour que les gens puissent découvrir l'évolution du familistère. Et puis, c'est aussi une grande fête du spectacle de rue, des arts qui se font sous la forme de spectacles, sous la forme de petits concerts, sous la forme de choses comme ça, disséminées un peu partout sur le site du Familistère. Alors naturellement, comme tout musée, il y a également les journées du patrimoine, hein, qui sont très marquantes. Et puis, au-delà de ça, on accueille tout au long de l'année des séminaires, on accueille des événements, alors qui sont soit mis en place par le Familistère comme des expositions temporaires, ou qui sont mises en œuvre par d'autres personnes qui viennent au Familistère, pour toujours avoir un lieu qui puisse inspirer et dont les gens puissent tirer parti pour leurs projets, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient médicaux ou autres.
Un beau projet qui se perpétue, on va dire.
Ah oui, effectivement, le Familistère est toujours un lieu qui intrigue, qui fait réfléchir, qui émerveille les gens et à chaque fois on a des retours extrêmement positifs en de ce qu'a fait Gaudin et de ce qui est devenu le Familistère. Et puis bah, surtout c'est un lieu qui travaille énormément avec les éléments autour de lui, que ce soit les autres sites patrimoniaux, que ce soit les lieux accueillant du public pour faire ici donc des hébergements, et puis bah, naturellement avec les offices de tourisme, à commencer par l'office du Pays de Thiérache qui est un autre partenaire particulier et primordial pour pouvoir le faire découvrir et amener les gens jusqu'à nous pour qu'ils puissent à leur tour vivre l'expérience familistérienne.
Voilà, mission accomplie, madame.